grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Qui aurait dit, il y a encore 10 ans, que le microbiote intestinal deviendrait un sujet discuté à la machine à café ou entre la poire et le dessert? Le charme discret de l'intestin du docteur Julie Anders a popularisé toutes ces bactéries bénéfiques ou pathogènes du gros et du petit côlon. Le microbiote, star d'une exposition à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et aujourd'hui, c'est le microbiote vaginal qui commence à se faire une place dans les conversations médicales. Nous verrons quel est le rôle de la flore vaginale, comme on l'appelait autrefois, une flore fondamentale pour la santé des femmes. Le bon équilibre de ce microbiote joue un rôle essentiel pour éviter bien des infections. Nous verrons également comment équilibrer la flore de cette zone intime et fragile. Pour vous aider à en prendre soin, trois invités, les médecins Jean-Marc Bobot et Marie Veluire, et la journaliste Rika Etienne. Avec nous également Aline Perraudin, directrice Santé Magazine. Toutes vos questions sur le microbiote vaginal au 01 45 24 7000, sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Aline.
Qui a mis sa belle veste. Non, c'est même pas une veste, non, c'est une chemise fleurie. Vous êtes écrivain, médecin. Vous nous proposez chaque semaine une médecine à visage humain.
Oui, aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question d'un interne qui s'appelle Alexandre. C'est: faut-il aimer les gens pour bien les soigner?
À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rébéi.
Bienvenue à nos invités. Bonjour, docteur Jean-Marc Bobot.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue et andrologue. Vous êtes le directeur médical de l'Institut Fourny à Paris. Rika Etienne, bonjour.
Bonjour, Ali.
Vous êtes journaliste, spécialiste des questions de santé, et ensemble, vous publiez en poche chez Marabout, prenez soin de votre microbiote vaginal. Avec nous au téléphone, Marie Veluire, gynécologue obstétricienne et sexologue. Alors, avant de s'intéresser à l'incroyable diversité du microbiote vaginal, pouvez-vous nous décrire l'appareil génital de la femme? Vous constatez, Jean-Marc Bobot, que j'utilise une périphrase pour parler du vagin. Beaucoup trouvent ce mot froid, technique, dérangeant, trop explicite.
Oui, c'est vrai. On le voit même chez nos patientes qui n'osent pas utiliser le terme de vagin, encore moins le terme de vulve, parce que tout ça fait très sale. C'est vrai qu'il va falloir dédramatiser un petit peu le vocabulaire, appeler un chat, si j'ose dire. De même que chez les hommes, on a beaucoup de mal. Les hommes ont beaucoup de mal à qualifier leur sexe. Ils parlent de mon sexe, mais ils parlent pas ni de verge ni de pénis. Donc, première des choses, il faut absolument apprendre à dédramatiser le vocabulaire.
Un peu d'anatomie. Contrairement à une idée reçue, le vagin n'est pas une cavité ouverte sans fond.
Non, le vagin, c'est, j'allais dire que c'est le zéro et l'infini. Hein. C'est là que tout commence, puisque c'est là que c'est la première fenêtre du bébé qui va naître sur la vie. Mais auparavant, c'est là aussi que tout a commencé par les spermatozoïdes qui vont pénétrer dans le vagin. Mais comme ce vagin n'est pas fermé, qu'il s'ouvre sur l'utérus, eh bien, les spermatozoïdes vont pouvoir grimper à l'intérieur de l'utérus pour aller retrouver l'ovule et pendant 9 mois. Nous concocter un joli bébé. Donc c'est tout à fait une cavité qui est respectable et indispensable à la santé des femmes.
Rika Etienne, quelques petites choses à savoir sur le vagin?
Bon, par exemple, qu'il est à plusieurs dimensions. Pendant l'acte sexuel, il s'agrandit, et c'est normal, pour certains conforts, on va dire. Lors de l'accouchement, il s'agrandit aussi pour laisser passer la tête de l'enfant, et donc il est à géométrie variable.
Jean-Marc Bobot.
Oui, puis alors il faut savoir aussi que c'est quand même un organe qui est voué à l'érotisme, hein, c'est-à-dire que toute la zone du vagin et de la vulve sont extrêmement innervées.
8000 nerfs.
Oui, 8000 nerfs. Donc ça donne des sensations qui, on l'espère dans la majorité des cas, sont agréables, mais qui expliquent aussi que ce vagin peut être douloureux dans un certain nombre de circonstances, et c'est dans un certain nombre de ces circonstances qu'on pourra parler du microbiote.
Et puis, une chose qu'on ne sait pas assez, c'est que le vagin est auto-nettoyant.
Auto-nettoyant, oui, absolument. Et c'est pour ça que l'une vraiment des erreurs à proscrire le plus au monde pour une femme, c'est de se faire des douches vaginales. Et il se trouve que pendant longtemps, dans les années 50, les médecins les recommandaient, suivis en cela évidemment par certains... Tous ceux qui voulaient vendre des produits derrière, aussi bien les labos que les Unilever et autres. Et donc, c'est une habitude à oublier totalement et complètement. Le vagin est auto-nettoyant, on vient de le dire. En revanche, la vulve, elle, ne l'est pas. Il faut évidemment la laver, mais avec des produits adaptés.
Aline Perraudin de Santé Magazine.
Oui, j'appuie ce que dit Rika, parce qu'on a vu ces derniers temps sur le marché des produits même pour les petites filles, pour l'hygiène intime des petites filles. Oui. Donc, docteur Bobot, c'est complètement inutile.
Alors, c'est en tout cas pour l'intérieur, oui, l'intérieur du vagin, absolument. Pour l'extérieur, c'est vrai qu'il faut des produits qui soient dédiés, c'est-à-dire qui soient pas agressifs. Mais on a vu pire ces temps-ci. Hein. On a vu venir des États-Unis la détox vaginale avec des décoctions d'herbes qu'on se met dans le vagin. On a aussi le sauna vaginal qui envoie de la vapeur chaude avec des herbes. Bon, c'est monstrueux, surtout avec les allégations qui avaient
c'est
été
faites. C'est Gwyneth Paltrow qui a lancé encore ce genre de petites choses.
Elle vient d'être condamnée quand même pour des allégations.
C'est monstrueux pour le microbiote vaginal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jean-Marc Bobot, ce qu'est le microbiote ?
Alors, c'est ce qu'on appelait autrefois la flore vaginale. Il faut savoir que dans un vagin, il y a entre 100 millions et 1 milliard de germes par millilitre de sécrétion vaginale. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, parce que la grande majorité de ces petites bestioles sont des bestioles extrêmement sympathiques qui protègent le vagin contre les agressions. Ce sont des bactéries qu'on appelle les lactobacilles, et ces lactobacilles ont énormément de propriétés qu'on n'a pas le temps de détailler ici, mais qui vont empêcher d'une part les autres microbes qui sont présents naturellement dans le vagin de se développer et surtout vont faire une barrière à ce qui peut venir de l'extérieur, c'est-à-dire essentiellement les infections sexuellement transmissibles. Mais leur rôle ne s'arrête pas à la prévention des infections. On sait aussi qu'ils ont un rôle majeur chez les femmes ménopausées parce que les femmes qui peuvent garder un peu de lactobacilles ont moins de sécheresse vaginale pendant la ménopause, ont moins de douleurs lors des rapports sexuels, ont moins d'infections urinaires. Donc, c'est vraiment un monde extrêmement important à préserver et ce monde, il commence à se mettre en place dès l'adolescence.
Erika Etienne.
Oui, les lactobacilles, je voulais juste préciser aux auditeurs, il y en a aussi dans le yaourt.
Il faut manger des yaourts.
Mais il ne faut pas confondre. Il y a une petite étudiante américaine qui a fait une recette à base de lactobacilles vaginaux et qui a essayé de voir si elle arrivait à fabriquer un yaourt perso. Elle l'a même goûté et, oh sympa de dire ça à l'antenne, grande radio nationale. Bon, il paraît que c'est vraiment déplorable et très acide et très âcre à ne pas faire parce que, en fin de compte, c'est quand même bourré aussi de germes et donc à ne pas tenter pour vérifier.
Docteur Marie Veluire, dans vos consultations, vous constatez une méconnaissance de ce microbiote vaginal chez les femmes qui viennent vous consulter?
Oui, oui. En général, elles n'ont aucune conscience de l'équilibre qui est nécessaire au niveau du vagin, mais j'avais envie de dire aussi au niveau de la vulve. Mmh. Et l'autre chose, pour rebondir sur ce qui a été dit avant, sur le plan sexuel, il est effectivement très important d'avoir une flore équilibrée. D'abord parce qu'effectivement, ça permet quand même en partie et pas uniquement une hydratation du vagin, et il faut des cellules qui soient compétentes pour pouvoir lubrifier s'il y a une excitation sexuelle. Donc ça, c'est absolument fondamental, mais on a aussi, et c'est quelque chose qu'on a tendance un tout petit peu à oublier, il faut que le vestibule soit aussi, le vestibule, c'est-à-dire l'entrée du vagin, et c'est là où en général ça fait mal quand il y a une pénétration, il faut aussi que ce vestibule soit suffisamment hydraté et donc, pour revenir au sujet de l'émission, qu'il y ait aussi une flore qui soit adaptée. Et donc, effectivement, pas de toilettes multiples et surtout pas vaginales, évidemment.
Jean-Marc Bobot, vous constatez cette méconnaissance du microbiote vaginal chez une majorité de femmes ?
Alors, je dirais que les choses changent, mais elles changent pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de patientes qui, effectivement, ont lu beaucoup, parce que maintenant, c'est difficile de passer un journal médical, non médical, ou un journal féminin sans avoir un article sur le microbiote. Mais elles sont persuadées que en modifiant le microbiote, on va avoir réponse à tout. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. On pourra parler éventuellement des produits qu'on peut utiliser pour rééquilibrer la flore, mais tous ces produits ne se valent pas, et il faut savoir que, par exemple, les probiotiques ne peuvent pas résoudre tous les problèmes. Ce faisant, je suis content de constater que les femmes viennent me voir de plus en plus avec cette notion. Je pense que j'ai un déséquilibre de la flore vaginale, et pour moi, c'est assez rassurant. Ça veut dire que l'information commence à passer.
Rika Etienne, c'est encore un sujet tabou, le microbiote vaginal ?
Il me semble... microbiote vaginal, soit les femmes le connaissent, soit elles le connaissent pas. Mais de fait, c'est ce qu'on disait au début de l'émission, le vagin reste tabou. Moi, quand je discute avec mes copines journalistes santé, quand même, hein, et que je parlais comme ça, d'une manière très libre du vagin, mais sans même plus faire attention, tellement ça me paraissait évident, elles baissaient tout le temps la voix. Alors que moi, pour moi, c'était un sujet... Donc, même... des journalistes santé peuvent avoir une petite gêne.
Aline Perraudin, journaliste santé.
Non, moi je suis pas du tout gênée, mais moi j'avais une question. Est-ce que le micro, puisqu'on parlait de relations sexuelles, le microbiote du pénis peut-il influencer ou changer le microbiote vaginal?
Très bonne question, Jean-Marc Bobot.
Oui, bien sûr. Et donc on s'est aperçu que chez des femmes qui ont un certain nombre, enfin certaines infections particulières qu'on appelle vaginoses bactériennes, qui sont le prototype du déséquilibre de la flore vaginale, on s'aperçoit que le microbiote de la verge de leur partenaire n'est pas le même quand elles sont en crise ou quand elles ne sont pas en crise. Alors de là à dire que cette infection est une infection sexuellement transmissible, sûrement pas, mais il faut savoir qu'il y a un échange qui se fait nécessairement et que la verge contient effectivement un microbiote bien particulier, et on sait en particulier que les femmes qui ont des partenaires différents, le vagin ne sait plus où donner de la tête. C'est-à-dire que, si j'ose dire, quand on a des contacts avec deux ou trois verges avec des microbiotes particuliers et différents, puisque chaque homme est différent, comme chaque femme est différente, bah, à un moment, le vagin, il perd un peu la tête, il ne sait plus où il en est, et effectivement, il peut y avoir des déséquilibres.
Et dans ces cas-là, mieux vaut mettre un préservatif. Baptiste Beaulieu.
De la même manière, enfin, c'est évident que l'alimentation modifie le microbiote intestinal, mais est-ce que l'alimentation a aussi une influence sur le microbiote vaginal, alors que ce n'est pas du tout, a priori, le même conduit?
Ouais, c'est pas le même conduit, mais il y a des études qui ont montré qu'il y avait un rapport direct entre obésité, par exemple, et modification du microbiote vaginal, ce que nous on appelle la dysbiose, c'est-à-dire déséquilibre de la flore. D'ici à dire qu'il suffit de faire un régime et de maigrir, ce qui de toute façon est parfaitement louable, hein, bien évidemment, pour améliorer son microbiote, c'est un peu compliqué. Mais il est évident qu'il y a une interpénétration de tous ces microbiotes, même s'ils sont complètement différents. Et je rebondis sur ce que disait Rika tout à l'heure, c'est que quand on parle de lactobacille, on a plein de lactobacilles dans le vagin, on en a plein dans l'intestin, mais ce ne sont pas les mêmes. Mmh. Et donc, des femmes qui se sont mis du yaourt dans le vagin sous prétexte que ça devait améliorer la flore vaginale, c'est une erreur fondamentale, ce ne sont pas les mêmes flores.
Et pardon, juste, je voulais juste préciser, la nourriture influence l'odeur du vagin. Par exemple, si vous mangez beaucoup d'ail, votre vagin va sentir l'ail. Mmh. C'est bon à savoir.
À propos d'odeur, est-ce que l'odeur du vagin indique la bonne santé du microbiote vaginal?
Oui, alors l'odeur du vagin est une discussion qui est quasi permanente, à la fois chez les femmes et chez les hommes. D'abord, il n'y a pas une odeur de vagin. Il y a une odeur qui va changer au fur et à mesure du cycle, qui va changer en particulier chez les femmes enceintes, juste à l'approche des règles ou après les règles, ça change un tout petit peu. En revanche, les femmes, elles connaissent bien ces changements d'odeur. Elles savent que c'est logique, c'est normal. Par contre, il y a certaines fois où le vagin sent franchement mauvais. Et là, il faut absolument consulter parce qu'il se passe quelque chose d'anormal.
Rika Etienne.
Il y a des tests faciles pour savoir si le vagin est équilibré ou pas. Déjà, quand on va chez le médecin, il peut faire un test avec des bandelettes pH et il sait tout de suite si le vagin est suffisamment acide ou pas. Et aussi, dans les laboratoires, un test qui permet de savoir si on a une flore équilibrée ou pas. On peut le demander à son gynécologue si on a des doutes.
Le regard de la gynécologue Marie Veluire.
Écoutez, ils ont dit à peu près ce qu'il y avait à dire. Oui, les femmes sont capables de sentir les choses. Moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est, mesdames, quand vous avez l'impression que vous avez des sécrétions qui sentent le poisson pourri, parce que c'est exactement ce qui se passe quand il y a un déséquilibre complet et apparition d'un germe qui s'appelle le Gardnerella, il faut absolument consulter parce que ça se traite. Et on ne traite pas uniquement l'infection, on a aussi besoin de rééquilibrer parce qu'il y a toujours, avec ce Gardnerella, un déséquilibre de la flore qu'il faut absolument rééquilibrer si on veut que ça ne recommence pas.
Et nous verrons au cours de cette émission comment rééquilibrer ce microbiote vaginal. Aline Perraudin.
Est-ce que les hormones influencent le microbiote et est-ce qu'il change avec la ménopause, par exemple, le microbiote vaginal? Et pour poursuivre ma question, est-ce que le soja, par exemple, on parlait d'alimentation, avec contenant des phytoestrogènes, pourrait avoir une influence positive?
Jean-Marc Bobot.
Alors, oui, les hormones sexuelles ont une influence considérable sur le microbiote. Tout simplement, c'est pas si simple que ça, mais pour faire court, les lactobacilles qui sont les défenseurs du vagin, qui sont la tour de contrôle des défenses, ont besoin d'un carburant, et ce carburant, ça s'appelle le glycogène. C'est un sucre qui ne peut être abondant dans les cellules vaginales que si la femme a beaucoup d'estrogènes, c'est-à-dire un type bien particulier d'hormones, et ces hormones sont produites à partir de l'adolescence jusqu'à la ménopause. Donc à la ménopause, il y a moins ou il n'y a plus du tout d'estrogène. Il y en a moins en général, les femmes en gardent toujours un tout petit peu. Donc le taux de lactobacilles va diminuer. Donc comme la nature a horreur du vide, tous les autres microbes qui existaient à l'état normal dans le vagin vont augmenter en nombre, provoquant un risque de déséquilibre de la flore avec ce qu'on a dit tout à l'heure que Marie Valuire a dit, c'est-à-dire cette vaginose qui se caractérise par une odeur de poisson pourri, mais aussi une augmentation du risque d'infection urinaire, parce qu'on ne parle pas suffisamment que les cystites sont l'une des causes majeures des cystites, c'est le déséquilibre de la flore vaginale. Donc oui, les hormones sont extrêmement importantes. Il y a très peu d'études qui ont consacré un pan de ces études aux phytoestrogènes. On ne sait pas s'ils ont les mêmes qualités que les estrogènes naturels, donc on peut considérer que s'ils améliorent l'état du vagin, en particulier l'hydratation, en particulier l'épaisseur de la paroi vaginale, ils vont favoriser non pas un retour à un vagin parfaitement normal d'un point de vue microbiologique, mais à un équilibre qui est approximatif. Donc, on n'a pas d'études sur le sujet pour répondre complètement à votre question.
Allez, nous attendons toutes vos questions sur le microbiote vaginal au 01 45 24 7000, sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Alexia Lacour, avec Nicolas Bauve, et c'est réalisé par David Le Prince. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn, and nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds, are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat, a thousand people in the street, singing songs and a carry inside. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line,
the man come and take you away. You better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. You better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. You better stop now, what's that sound?
Buffalo Springfield, ça date de 1967 et vous n'étiez pas né, Baptiste Beaulieu. Hein?
Non.
Le gant de toilette mouillé utilisé de jour en jour est une mauvaise habitude.
Grand bien vous fasse.
La jette humide, ce n'est pas une bonne idée. Ce sont souvent avec des produits eux-mêmes chimiques qui dessèchent la vulve et qui la rendent plus fragile.
Sur France Inter.
10h26 et nos invités attendent toutes vos questions sur le microbiote vaginal avec les médecins Jean-Marc Bobotte et Marie Veluire et avec la journaliste Rika Etienne, 01 45 24 7000.
Moi, la flore vaginale, j'en ai entendu parler au moment où justement elle était perturbée par la prise d'antibiotiques.
On en parle entre nous, surtout quand on est concerné et qu'on a, du coup, j'en sais rien, une mycose, des frottements, des douleurs vaginales et tout. Savoir un peu par rapport aux copines si c'est un truc qu'elles ont aussi eu, quel traitement elles ont potentiellement pris ou à quoi ça peut être dû. Après, en général, c'est à cause des vêtements serrés ou des tampons.
C'est le genre de sujet que ça peut arriver.
Je pense que discuter, les meufs entre meufs, ouais.
Ouais.
Davantage.
Pas du tout. Et typiquement, moi, je suis en couple et le mec n'a pas été au courant que j'avais un problème de ce côté-là. J'ai pas osé en parler.
Même si c'est pas mon corps, ça concerne tout le monde quand même.
On devrait en parler entre nous, pas qu'il y ait de gêne, et que tout le monde soit un peu au courant de ce qui se passe dans le corps des femmes, c'est intéressant.
Propos recueillis par Nicolas Beauve dans les rues de Paris la semaine dernière. Jean-Marc Bobotte, Rika Etienne, vous consacrez un ouvrage au microbiote vaginal chez Marabout. Quelle est la composition du microbiote vaginal, Jean-Marc Bobotte?
Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, le microbiote vaginal chez une femme non ménopausée est composé en majorité de lactobacilles. Ces lactobacilles, on a pu les cartographier dans la mesure où on pensait qu'ils avaient une grande similitude avec les lactobacilles qu'on trouve dans l'intestin. C'est pas vrai. Il y a des lactobacilles bien particuliers qui se développent dans le vagin.
5 classes de lactobacilles.
C'est ça. Alors donc, il y a un Français qui est parti travailler aux États-Unis qui s'appelle Jacques Ravel et qui a fait une classification du microbiote vaginal avec 5 classes en fonction du type de lactobacilles. Alors, il y a 4 classes qui sont dominées par les lactobacilles et une classe où il n'y a plus de lactobacilles. Et là, on est dans un déséquilibre de la flore. Mais c'est important de savoir quels sont les lactobacilles qui peuvent se développer dans le vagin ou qui se développent naturellement. Parce que, bien évidemment, quand il va manquer de ces lactobacilles, on va pouvoir en donner. Et encore faut-il donner les bons lactobacilles. C'est ce qu'on appelle les probiotiques. Et c'est en connaissant la composition naturelle, normale, et physiologique des vagins, qu'on a réussi à mettre au point des probiotiques efficaces.
Comment sait-on que la flore vaginale est déséquilibrée? Qu'est-ce qui doit alerter une femme? Y a-t-il des examens à faire?
La première des choses, c'est les sensations que peuvent avoir les femmes, c'est-à-dire des démangeaisons, des brûlures, des mauvaises odeurs, des pertes anormales, des douleurs lors des rapports sexuels, des infections urinaires. J'ai malheureusement beaucoup trop de femmes qui viennent me voir avec des cystites récidivantes depuis des années et personne ne s'est penché pour savoir si, enfin si j'ose dire, sur leur vagin pour savoir si le vagin n'était pas déséquilibré. Or, le vagin est un lieu de transit entre le microbiote intestinal qui est tout près chez la femme, hein, qui est à 2 ou 3 cm du vagin, et l'entrée de l'appareil urinaire, qui est donc le méhère urinaire, qui est tout près. Donc toutes ces zones, quand elles sont perturbées, soit par des problèmes d'hygiène inadaptés, des femmes qui utilisent des antiseptiques en permanence pour faire leur toilette, des femmes qui font des toilettes vaginales, tout ça, c'est très pervers pour le microbiote.
Alors, les lactobacilles acidifient le milieu, le pH est donc le reflet de l'état du vagin. Il faut s'inquiéter quand le pH du vagin est supérieur à 4,5, Rika Etienne.
Sauf chez la femme ménopausée, mais chez une femme qui est encore en période de fertilité, oui, effectivement, c'est un signe. Et c'est pour ça que les gynécologues, beaucoup utilisent des bandelettes de pH, mais peut-être que beaucoup aussi ne les utilisent pas assez. Donc, c'est vraiment un élément important pour le diagnostic. Et en plus, il existe des tests en laboratoire qui permettent exactement de savoir où on en est, et ça, on ne les utilise pas non plus assez. Et quand ça ne va pas, on a une solution.
Jean-Marc Bobotte, rappelez-nous de quelle façon un microbiote vaginal sain protège la santé des femmes. Quel est le mécanisme ?
Alors le mécanisme est très compliqué, mais ce que vous avez dit tout à l'heure est tout à fait juste, c'est-à-dire que le principal mécanisme, c'est l'acidification du milieu. Pourquoi ? Parce que en dehors des lactobacilles et éventuellement d'une levure microscopique qui est le candida albicans qui est responsable de mycose, aucune bactérie ne peut se développer si le pH est acide. Ça ne veut pas dire qu'on tue toutes les bactéries, ça veut dire qu'on les empêche de se développer. C'est-à-dire que plus le vagin va rester acide, plus on aura une protection vis-à-vis du développement des microbes qui existent déjà à l'état normal dans le vagin, et surtout vis-à-vis d'autres microbes qui peuvent venir de l'extérieur. Et quand je parle de microbes, je ne parle pas uniquement de bactéries, je parle aussi des virus, et en particulier le papillomavirus, qui, je vous rappelle, tue 3 femmes par jour en France, le virus du sida, le VIH, et le virus de l'herpès. Donc, quand on a un vagin équilibré, je ne dis pas qu'on, à tous les coups, on va éviter ces infections, mais on a beaucoup moins de risques de contracter ces infections.
Et les lactobacilles sont en fait des bactéries vraiment intelligentes et qui ont énormément de pouvoir. Parce que non seulement elles acidifient le vagin et elles créent un climat intéressant à l'intérieur, mais en plus elles fabriquent des armes chimiques qui vont s'opposer et neutraliser certains germes extérieurs. Elles vont aussi fabriquer des biofilms qui vont tapisser le vagin. Et donc nous sommes vraiment, quand on est équilibré, on est quand même paré pour l'essentiel.
Bienvenue Claire.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question ?
Voilà, je voulais poser la question. Ma fille se plaint de sécheresse vaginale. Elle a 17 ans et voilà, je voulais savoir d'où cela pouvait venir et comment résoudre ce problème. Soit en allant voir un gynéco, mais quels étaient les examens à faire pour résoudre ce problème.
Marie Veluire, gynécologue, vous voulez répondre peut-être à Claire ?
Oui, je voulais savoir qu'est-ce qu'elle entend par sécheresse vaginale, c'est-à-dire est-ce qu'elle est mal à l'aise quand elle s'assoit, est-ce qu'elle a déjà eu des rapports sexuels et qu'elle a l'impression que c'est trop sec, c'est quoi son problème de sécheresse vaginale ?
Claire ?
C'est plutôt au moment de ses rapports sexuels.
D'accord. Alors, je suis désolée là, ça a peut-être un rapport avec le microbiote vaginal, mais à 17 ans, ça a quand même surtout beaucoup plus à faire avec est-ce qu'il y a suffisamment d'excitation sexuelle pour qu'elle puisse lubrifier. Je crois qu'il faut vraiment distinguer deux choses. Il y a la lubrification qui donc peut donner une impression de sécheresse vaginale et qui est sous le contrôle de l'excitation sexuelle. Et puis il y a l'hydratation du vagin ou la capacité d'avoir des cellules compétentes qui permettent de lubrifier et qui là où effectivement le microbiote vaginal a beaucoup d'importance. Voilà, donc il y a ces deux choses-là. Moi, j'aurais envie de dire à votre fille qu'il faudrait peut-être qu'elle aille discuter de comment ça se passe pendant le rapport sexuel. Alors que si elle parle de sécheresse parce qu'elle est inconfort, c'est-à-dire que quand elle s'assoit ou quand elle les essuie, elle a l'impression que vraiment c'est sec, c'est douloureux, ça brûle, c'est désagréable. À ce moment-là, effectivement, il se passe peut-être quelque chose de différent. Mais vraiment, il faut faire attention à ces deux causes qui ne sont pas tout à fait les mêmes. A fortiori à 17 ans.
Jean-Marc Bobot.
Oui, je suis complètement d'accord avec Marie. C'est-à-dire que c'est quelque chose, les femmes ne font pas la différence. Elles parlent de sécheresse vaginale, mais c'est vraiment très important de savoir si c'est uniquement lors des rapports ou si c'est en permanence. Et on voit très souvent ça chez les femmes ménopausées qui viennent nous voir en disant « j'ai une sécheresse, je suis pas bien ». Alors nous, on est désespérés, on se dit « mais alors pendant les rapports, c'est catastrophique ?» Ah ben non, les rapports, ça va très bien. Parce que c'est des mécanismes totalement différents. Comme l'a dit Marie Veluire, la lubrification pendant les rapports sexuels, c'est lié à l'excitation qui va provoquer des sécrétions de certaines glandes au niveau du col de l'utérus et au niveau de la vulve qui vont se mettre à lubrifier énormément. Et c'est pas ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Donc, alors chez une jeune fille, il faut aussi vérifier si elle ne prend pas une pilule très faiblement dosée, parce que quand on a des taux d'estrogène très bas, comme on l'a dit tout à l'heure, les estrogènes jouent un rôle fondamental, il peut y avoir des problèmes de sécheresse. Mais là, je suis d'accord avec Marie Veluire, ça me semble plus être un problème sexologique.
Merci beaucoup. Allez-y, Ricard.
Juste la question aussi à se poser, c'est si c'est tout le temps, toute la journée, ou si c'est uniquement pendant les rapports sexuels. Parfois, ça peut être très simple, il suffit de boire suffisamment aussi. La sécheresse, elle est partout, y compris au niveau du vagin.
Merci beaucoup Claire pour votre question. Alors Rika Etienne, Il est essentiel de reléguer quelques idées fausses à la trappe hein, concernant le microbiote vaginal. Par exemple, on a une question de Dana qui nous dit, avec les copines, nous ne sommes pas d'accord. Je soutiens qu'il faut dormir sans sous-vêtements pour laisser les parties génitales externes s'aérer. Et elles me disent le contraire, mes copines. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de cette idée selon laquelle, par exemple, les jeans serrés, les sous-vêtements nylon déséquilibrent la flore intestinale?
Il y a plein de questions là-dedans, parce que dormir avec les parties, enfin le vagin à l'air, mais pour un homme aussi c'est pareil. Oui, c'est bien. Je veux dire, c'est vraiment le conseil qu'on pourrait donner.
Sur l'idée reçue que le jean serré, les sous-vêtements nylon.
Alors là, Jean-Marc vous dirait que en réalité non, ça c'est une idée reçue, Jean-Marc.
Alors la seule chose que peut faire des jeans serrés ou des sous-vêtements en synthétique, c'est quand il y a une irritation, le frottement peut augmenter l'irritation. Mais en soi, c'est pas ça qui va créer un déséquilibre de la flore. Quant au fait de dormir avec ou sans sous-vêtements, on dort pas avec son pull, on dort pas avec ses gants. Donc il faut laisser respirer. Alors évidemment, en dehors des périodes de règles, ça tombe sous le sens. Mais il est certain qu'il faut dormir. Alors si on veut pas dormir complètement nu, ben on peut dormir avec un sous-vêtement ample.
Autre idée reçue, Rick et Étienne, le vélo ou l'équitation peuvent provoquer un inconfort mécanique.
Ça, c'est pas une idée reçue. Enfin, oui, c'en est une. Oui, effectivement, je veux dire, à force d'appuyer, certaines femmes qui sont plus fragiles ont un vrai inconfort mécanique au point de pas pouvoir faire de vélo ni d'équitation. Et surtout si en plus elles ont des jeans serrés. Là,
c'est clair. Robot.
Oui, absolument. Il y a quand même une pression qui se fait. On le voit aussi chez les hommes. On a des hommes qui font beaucoup de vélo et qui viennent nous voir avec des douleurs périnéales parce que la selle appuie sur cette zone qui est un peu fragile. Oui.
Une idée reçue que j'ai relevée dans votre livre, les mycoses s'attrapent à la piscine, au sauna, au hammam, en thalasso à cause des germes, entre guillemets, qui traîneraient dans l'eau.
Non. Alors ça, c'est une idée reçue. Il faut que les femmes qui ont des mycoses récidivantes puissent retourner librement à la piscine, dans les bains de mer, dans les saunas. Ça n'a absolument rien à voir. Alors, on peut attraper des mycoses dans les pédiluves, hein, c'est-à-dire au niveau des doigts de pied, mais absolument pas au niveau vaginal. Donc ça, c'est une idée totalement fausse.
Oh, pardon.
En tant que médecin généraliste, ça m'arrive de prescrire souvent des antibiothérapies pour certaines patientes qui reviennent au bout de 2 semaines avec un inconfort, une mycose, quelque chose comme ça. Et est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'impact qu'ont les antibiotiques dans la vie intime féminine, quoi.
Bah, moi, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser au microbiote il y a 15 ou 20 ans, parce que j'ai été très déçu en tant qu'infectiologue des résultats qu'on avait avec les antibiotiques et les antifongiques qui fonctionnaient généralement à court terme, mais à long terme, on avait des récidives. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a une autre manière d'aborder les problèmes. Donc, bien sûr, les antibiotiques sont totalement indispensables dans un certain nombre de cas. J'ai bien dit dans un certain nombre de cas. Et les femmes sont terrorisées quand elles voient des résultats d'analyse avec présence de tel ou tel microbe. Et il y en a beaucoup qui revendiquent le traitement antibiotique. Quand on leur explique que ce microbe ne se développe que parce qu'il y a un déséquilibre de la flore et qu'on va réduire le déséquilibre, elles arrivent à comprendre qu'on va les traiter autrement. Donc oui, l'antibiothérapie peut être un facteur de déséquilibre. Quand on est absolument obligé d'en donner, il faut corriger en même temps le microbiote.
Et je vous renvoie à l'émission que nous avions consacrée à la résistance aux antibiotiques. Il est temps de retrouver notre médecin romancier Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Ben voilà, exactement.
Alors voilà.
Baptiste Beaulieu, tous les lundis, vous nous proposez une médecine à visage humain.
Oui, Ali, l'autre jour, j'ai donné une conférence à la faculté de médecine de Grenoble et il y avait un jeune interne qui s'appelle Alexandre, qui était brillant, mais qui était inquiet. Il s'est confié. Il avait peur d'être un mauvais soignant parce que il n'aimait pas les gens. J'ai trouvé ça très honnête, de le dire devant tous ses camarades. Et il était vraiment gêné, honteux, et de me confier ça comme si j'allais lui jeter des petites fourchettes en fer dans les yeux pour l'obliger à aimer ses semblables. Alors, j'ai pris le temps de la réflexion et je voudrais ici lui apporter un début de réponse. Alors, d'abord, je sais pas ce que c'est qu'être un bon médecin. Et je pense qu'on pourrait écrire des livres entiers sur le sujet sans qu'on obtienne le début d'une piste. Ensuite, j'ai interrogé des patients et des patientes pour savoir ce qu'ils attendaient, eux, de leur médecin. Eh ben, d'abord, les patients ne demandent pas d'être aimés, premièrement. Moi, j'aime mes parents, par exemple, j'aime mes sœurs, mes amis, c'est déjà beaucoup. Ce que les patients demandent, en revanche, c'est d'être considérés, d'être respectés en tant qu'individu. Ce qu'ils cherchent, c'est une information qui est délivrée dans des conditions de respect mutuel. Ce qu'ils demandent, c'est que, une fois cette information délivrée, On les considère pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire capables d'autodétermination. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aimer pour être en sympathie et bienveillant. Il n'y a pas besoin d'aimer pour dire à une patiente « j'entends ce que vous dites ». Il n'y a pas besoin d'aimer pour dire à une patiente « je vous crois quand vous dites « j'ai mal ». Il n'y a pas besoin d'aimer pour demander à une patiente « acceptez-vous que je vous examine ». Il n'y a pas besoin d'aimer pour demander à une patiente « est-ce que vous avez peur ? Est-ce que vous avez des questions ?» Il n'y a pas besoin d'aimer pour dire à une patiente « je vais vous accompagner si vous voulez, ce sera long ». Mais on fera ça ensemble, vous ne serez pas toute seule. Cependant, et je veux terminer sur ça, Alexandre, si tu m'écoutes, pour exercer le métier de soignant, c'est toi qui vas avoir besoin de beaucoup, beaucoup d'amour. Parce que ce n'est pas vivable sinon, toute cette souffrance. Et n'oublie pas, n'oublie jamais, la vie, Alexandre, elle est belle.
Et on peut retrouver la vidéo de votre chronique sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse, sur le site de France Inter et sur votre blog. Alors voilà, nous attendons toutes vos questions sur le microbiote vaginal au 01 45 24 7000, sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Kepler, Kepler.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h44 et nos invités attendent toutes vos questions sur le microbiote vaginal, les médecins Jean-Marc Boboté, Marie Veluire et la journaliste Rika Etienne. 01 45 24 7000. Question d'Élodie. Quel est l'impact de la pilule sur le microbiote vaginal, Jean-Marc Boboté?
Alors, des études ont montré qu'il n'y avait pas d'impact particulier, sauf chez certaines femmes qui prennent des pilules très faiblement dosées en estrogène. Donc, la pilule ne modifie pas généralement donc le microbiote. En revanche, d'autres modes de contraception, comme le stérilet, et en particulier les stérilets qui contiennent pas d'hormones, ont montré que dans certains cas, et heureusement pas chez toutes les femmes qui portent des stérilets, il peut y avoir au moins dans les premiers mois qui suivent la pose du stérilet un déséquilibre du microbiote. Mais généralement, avec quelques probiotiques qui accompagne la pose du stérilet, on arrive à résoudre le problème.
Question de Marianne, quelle protection périodique doit-on utiliser pour préserver son microbiote vaginal ?
Alors, toutes les protections se valent. J'allais dire, c'est un peu ridicule de jeter l'anathème sur tout type de protection. On a parlé beaucoup des tampons, en particulier avec un certain nombre de produits chimiques qu'on a retrouvés dans les tampons, de toxiques, les serviettes périodiques. Sur le microbiote, il n'y a pas de différence fondamentale. J'allais dire, chaque femme doit le faire en fonction de la manière dont elle ressent le port du tampon ou la serviette. Mais il n'y a pas de différence en matière médicale. Je vais dire juste un mot sur la cup quand même, parce que on a dit que la cup protégeait à 100% de ce fameux toxic shock syndrome qu'on le retrouve chez les femmes qui portent des tampons trop longtemps. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a aussi des cas de toxic shock syndrome maintenant avec la cup. Donc, j'allais dire, c'est un problème de femmes et les femmes doivent choisir.
Aline Perraudin de Santé Magazine.
Est-ce que les tampons probiotiques sont utiles?
Alors, pendant longtemps, on a pensé que oui, mais je pense toujours que ça peut être utile en complément. Mais le problème, c'est que les probiotiques mettent plusieurs jours avant de pouvoir s'implanter. Donc, une femme qui a des règles très courtes, c'est-à-dire 2-3 jours, c'est pas la peine de mettre des tampons probiotiques, ils n'auront pas le temps de s'implanter dans le vagin. Par contre, s'il y a des règles un petit peu plus longues, oui, ça peut être intéressant. Mais à mon avis, c'est pas le meilleur moyen d'implanter des probiotiques dans le vagin.
Rika Etienne.
Oui, juste une petite précision pour les protections. Effectivement, on peut mettre n'importe lesquelles en fonction de ses goûts, on va dire. Mais il ne faut pas les mettre entre les règles à titre préventif. Ça par contre, c'est un poison de la flore.
Marie Veluire.
Oui, je suis entièrement d'accord avec Rika, effectivement, mais pas des tampons quand on n'a pas de règles. Moi, je voulais juste revenir sur la cup. Mmh. Je crois que parce que moi, j'ai de plus en plus de femmes et de jeunes femmes qui me posent la question sur la cup, qui me demandent ce que j'en pense, qui en mettent de plus en plus en ayant l'impression d'abord de faire des économies et ensuite d'être plus entre guillemets naturelles, parce que c'est quand même très très en vogue. Et là encore. Je crois que, comme l'a dit Jean-Marc, il y a vraiment aucun problème par rapport au microbiote. Et je voudrais aussi revenir sur tout ce qui a pu être dit sur les tampons et sur les serviettes et sur ce qu'on a pu trouver dedans. Oui, on n'a jamais pu montrer quoi que ce soit qu'il y ait eu des conséquences importantes, hormis le toxic shock syndrome, mais qui a été quand même montré avec des tampons que des femmes laissaient très très longtemps. Et d'autre part, c'est rarissime. Il faut quand même redire les choses. C'est rarissime. Donc oui, effectivement, les femmes doivent choisir ce qui leur convient le mieux. Certains, c'est la cup, d'autres, c'est les tampons, d'autres, c'est les serviettes, d'autres, c'est les trois. Et sur le microbiote vaginal, je crois quand même que l'influence, elle est très minime, sauf si on fait des bêtises dans la façon de les utiliser.
Baptiste Beaulieu.
Oui, tout à l'heure, vous disiez que c'était pas le meilleur moyen d'implanter une flore. Du coup, je posais la question, quel est le meilleur moyen pour une femme qui a été perturbée, par exemple, suite à une antibiothérapie, d'implanter une flore normale, naturelle, la meilleure possible dans sa cavité vaginale?
Alors, moi, je prescris beaucoup de probiotiques. Les probiotiques, donc, ce sont des micro-organismes vivants que l'on ingère soit par voie buccale, soit que l'on met in situ, c'est-à-dire au niveau du vagin. Donc, moi, j'utilise beaucoup les probiotiques par voie vaginale parce qu'on sait exactement la dose de probiotiques qu'on va mettre. Donc, première des choses, il faut utiliser les bonnes souches de lactobacilles. Et donc, il y a plein de laboratoires qui proposent des lactobacilles, des probiotiques en disant « mes probiotiques, ils fonctionnent très bien, on a testé en laboratoire, on a testé chez les animaux ». Moi, j'ai toujours tendance à privilégier les laboratoires qui ont fait des études cliniques. Et donc, j'ai conseillé à un certain nombre de laboratoires de faire ces études. J'y ai même participé parce que ce qui se passe dans un vagin de femme, c'est quand même très différent de ce qui se passe sur une paillasse de laboratoire ou chez une souris. Deuxième des choses, il faut adapter la durée du traitement à la pathologie. Si on donne 3 jours de probiotiques, ça ne marchera pas. Il faut plusieurs jours et éventuellement des cures répétitives, une semaine par mois, par exemple, dans certaines pathologies.
Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur l'hygiène de vie, Rika Etienne, qu'il s'agisse du tabac, du stress, d'une hygiène corporelle excessive ou agressive. Le tabac d'abord, c'est un facteur méconnu de déséquilibre du microbiote.
Oui, absolument. Le tabac, en fait, interagit énormément chez les femmes à des tas de niveaux. Et on peut s'en rendre compte d'une manière plus globale. Par exemple, on sait que les femmes seront ménopausées 2 ans plus tôt si elles sont fumeuses. On sait également que les femmes mettront beaucoup plus de temps à avoir un enfant quand elles sont fumeuses. Et au niveau du vagin, ça se répercute également. Et en fait, c'est comme si les cellules vaginales étaient asphyxiées. Leur comportement n'est plus optimal. Elles ne font plus leur boulot. Et du coup, ça a un impact sur le microbiote.
Les risques, c'est la vaginose, Jean-Marc Bobot ?
Oui, c'est le tabac, c'est l'ennemi numéro un du vagin. Il faut être tout à fait clair. D'une part, parce que quand on fume, les femmes qui fument, elles ont moins d'estrogènes dans le sang, donc il y en a moins dans le vagin, et donc les lactobacilles n'ont plus le carburant nécessaire pour travailler. Donc c'est une cause majeure, et je vois aussi beaucoup de femmes qui viennent, qui ont été traitées pendant des mois, voire des années, avec des antibiotiques pour des vaginoses récidivantes, et personne ne leur a dit d'arrêter le tabac. À partir de 4 cigarettes par jour, il y a un risque de déséquilibre de la flore. C'est très peu. Et si elles arrêtent le tabac, il faut considérer que la flore peut se reconstituer entre 3 et 6 mois, mais on peut les aider, bien sûr, les accompagner pour que ça aille plus vite avec des probiotiques.
J'avais une question au docteur Bobo. J'ai vu une étude qui montrait un lien entre le microbiote vaginal et les naissances prématurées. Est-ce qu'on pourrait donc donner des probiotiques particuliers aux femmes enceintes pour éviter les naissances prématurées ?
C'est un travail que l'on fait. Il y a des études qui sont en cours. Pour l'instant, on n'a pas de résultats qui soient probants. Mais ce qui est certain, et ça vous avez parfaitement raison, c'est qu'il y a un lien direct entre déséquilibre de la flore vaginale chez une femme enceinte et risque de prématurité. Maintenant, on n'a pas encore la réponse adaptée, même si il n'y a aucun risque à donner des probiotiques chez la femme enceinte. Et ça, il faut bien le dire que de toute façon, il n'y a aucun risque à en donner. Donc, à la limite, tout ce que ça peut faire, c'est éventuellement être bénéfique. Mais c'est un petit peu trop tôt pour avoir des conclusions scientifiques.
Bonjour Audrey, bienvenue. Vous appelez de Paris.
Oui, bonjour. Je vous appelle parce que justement, moi, je suis enceinte et je voulais savoir dans quelle mesure un bon microbiote vaginal pouvait influer sur la santé de mon bébé, et si oui, qu'est-ce que je peux faire pour préparer mon accouchement.
Et pourquoi ce microbiote vaginal est aussi important lors de la naissance du bébé par voie basse ?
Oui, alors il est aussi important parce que c'est lui qui, entre autres, par le passage de l'enfant dans les voies naturelles, va imbiber l'enfant d'un certain nombre de bactéries qui sont des bactéries bénéfiques pour ensemencer son microbiote intestinal et constituer les premières défenses de l'enfant. Après, l'enfant va développer lui-même son microbiote en fonction de l'environnement. Et là, je crois qu'il faut être tout à fait clair. Les antibiotiques qu'on donne pour un oui, pour un non, c'est catastrophique chez l'enfant. Il y a des choses qui font dans l'environnement que ce microbiote intestinal va se développer. C'est en particulier le contact avec les animaux. Dans les fratries, il y a des animaux, les microbiotes intestinaux se développent beaucoup mieux. Mais en tout cas, l'accouchement voie basse, c'est le starter, c'est le début d'une bonne immunité intestinale chez l'enfant.
Et quel est l'impact des césariennes sur le microbiote du bébé ?
Alors, on s'aperçoit que les enfants qui naissent par césarienne ont un microbiote intestinal qui est moins riche, qui est moins diversifié que celui des enfants qui sont nés par voie basse. Ce qui fait qu'il y a eu une mode qu'on appelle le vaginal seeding, qui consiste à, chez un enfant qui vient de naître par césarienne, à aller tremper une petite compresse dans le vagin de la mère et puis badigeonner le visage de manière à ce qu'il puisse avoir le bénéfice de ces bactéries.
Et on peut peut-être conseiller aussi d'allaiter dans ce cas-là, pour que via le lait maternel, il y a tout un microbiote au niveau du lait, et donc on réensemence l'enfant par cette voie-là.
Beaucoup de questions sur l'hygiène intime. Quelles sont les règles fondamentales de cette toilette vaginale, Lucas Etienne ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Qu'est-ce qu'il faut proscrire ?
Il faut proscrire le trop peu et le trop. En fait, il faut se laver une à deux fois par jour maximum. En cas d'infection, ne pas se laver davantage, car ça serait préjudiciable pour la flore. Il vaut mieux consulter dans ces cas-là en cas d'infection. Si ça va mal, si ça brûle, si ça pique, si c'est vraiment désagréable, on consulte, on fait les examens dont on a parlé auparavant. Qu'est-ce qui peut être utiliser des produits d'hygiène adaptés. On dit que c'est pour faire vendre, mais absolument pas. Le savon de Marseille est beaucoup trop agressif et irritant.
Vous confirmez, Jean-Marc Bobot ?
Oui, et il y a une mode à l'heure actuelle qui est... Moi, j'ai beaucoup de patientes qui viennent me voir en me disant « De toute façon, moi, on m'a dit, lavez-vous à l'eau, ça marche très bien. » Moi, deux choses. Quand on s'est lavé les mains à l'eau, est-ce qu'on a l'impression de s'être lavé les mains ? Donc, la réponse est non. Et d'autre part, on fait comme tous les gamins, on trempe son doigt dans l'eau, on le ressort, deux minutes après, il est complètement desséché. Donc, l'abus de toilette uniquement à l'eau, c'est quelque chose qui peut aggraver la sécheresse locale.
Audrey, vous êtes toujours avec nous ?
Oui.
Est-ce que vous étiez sensibilisée à l'importance du microbiote vaginal ?
En fait, ça m'a interpellée parce que moi, j'ai eu un souci au niveau du microbiote dans mon ventre, un déséquilibre. Et donc, du coup, par rapport à ça, j'ai des interrogations pour mon bébé, savoir si le passage du bébé allait jouer. Et vous m'avez bien répondu.
Merci beaucoup, Audrey, de nous avoir appelé. Séverine nous demande, est-ce qu'une altération du microbiote vaginal peut avoir des effets plus globaux, comme des changements d'humeur?
Alors, au niveau intestinal, ça a été démontré. Maintenant, une femme qui a un déséquilibre permanent ou récidivant de la flore vaginale, ça met pas franchement à l'aise dans la vie de tous les jours. Quand on a des mauvaises odeurs, parce qu'il faut rappeler, par exemple, que ces mauvaises odeurs dans la vaginose bactérienne sont maximales après le rapport sexuel. Donc, c'est pas non plus d'un érotisme torride de sentir le poisson pourri après chaque éjaculation du partenaire. Donc, effectivement, ça peut jouer sur les humeurs. Ce que je voudrais dire, c'est que le microbiote vaginal, ça a un impact lors des déséquilibres sur les mauvaises odeurs et tout ça, mais c'est aussi un cofacteur de gravité d'un certain nombre d'infections comme celle du papillomavirus qui, à l'heure actuelle, je vous rappelle, le papillomavirus tue 3 femmes par jour en France, et donc on sait qu'un microbiote déséquilibré, ça va pérenniser l'infection à papillomavirus et ça va augmenter le risque de transmission, de transformation en cellules cancéreuses.
Est-ce qu'on peut, en cette fin d'émission, rappeler les règles fondamentales pour préserver son microbiote vaginal, Jean-Marc Bobot? Règles essentielles.
Alors, arrêtez de fumer. Consulter dès qu'on a un problème, mais surtout ne pas utiliser n'importe quel probiotique qu'on a acheté à la pharmacie ou sur Internet, parce que tous les probiotiques ne se valent pas. Et encore une fois, il faut faire confiance aux probiotiques qui ont été testés médicalement. Il faut utiliser des produits d'hygiène qui soient dédiés. Il ne faut pas faire de toilettes internes. Et donc, tout ça, ça permet de respecter et de donner le maximum de confort à sa vie sexuelle.
Et quel est le rôle de l'alimentation ?
Alors, l'alimentation, pour l'instant, on n'a pas de rapport direct avec le microbiote vaginal. C'est en cours de recherche.
Erika Etienne ?
Moi, j'ajouterais que si on reçoit des antibiotiques, plus d'une semaine d'antibiotiques, pardon, il faut prendre des probiotiques intestinaux d'abord, pendant les antibiotiques, et poursuivre après avec des probiotiques vaginaux pour protéger sa flore.
Merci à tous, docteur Jean-Marc Bobot, Rika Etienne. Je recommande chez Marabout en Poche, prenez soin de votre microbiote vaginal. Merci beaucoup, Marie Veluire. Votre dernier livre est publié chez InPress. Je tue nous, le couple, le sexe et l'amour. Merci à Aline Perraudin et Baptiste Beaulieu. Demain, on se demande s'il est bon de ne pas avoir d'ambition dans la vie à l'heure des réseaux sociaux et de l'hypernarcissisme. Et pourquoi ne pas choisir la banalité plutôt qu'un destin extraordinaire, nous dira l'un de nos invités, Paul Douard. Avec nous également demain, le chercheur en psychologie des émotions Ilios Kotsou et le psychiatre François Lelore. Et vous, faites-vous preuve d'absence totale d'ambition. Dites-nous tout au 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Alexandre Chénet et Maxime Ingrand.